Europe 1. Écoutez le monde changer. Europe 1, 15h, 16h, il n'y a pas qu'une vie dans la vie. Isabelle Morizet.
Bonjour. Il met de la passion en tout et ça nous emporte. Je reçois Laurent Deutsch, qui publie chez Michel Lafon la version magistralement enrichie de son dernier best-seller, romanesque, La folle aventure de la langue française. Alors imaginez plutôt 250 illustrations rares, des documents d'époque, des manuscrits anciens, des tableaux somptueux colorent ce voyage passionnant de la construction de notre langue à travers les siècles. Mais Laurent Deutsch n'en reste pas là. Il nous attend tous les dimanches et lundis au Théâtre de Paris, Salle Réjeanne, pour un seul en scène enflammé qui est l'adaptation de son livre.
Europe 1.
Bonjour et bienvenue dans cette émission.
Bonjour.
Alors, cher Laurent,
oui.
On est dans l'époque de l'immédiateté.
Oui.
On parle avec de moins en moins de mots.
Il faut aller vite.
Voilà, les phrases du quotidien relèvent presque d'ailleurs de la phonétique. Je ne parle même pas des SMS. Les échanges épistolaires ont complètement disparu. On s'envoie maintenant des émoticônes sur smartphone. Et vous, vous rééditez une version enrichie de La folle aventure de la langue française. Et vous poussez même l'audace jusqu'à faire de ce livre un spectacle, un seul en scène. Donc vous êtes en fait donné une mission, c'est ça? Celle de nous faire découvrir l'ADN du peuple français.
Ouais, je suis persuadé que les mots qu'on emploie sont ce qui définit le mieux et infailliblement nos origines. Vous savez, aujourd'hui, parler de l'identité, c'est tabou. Hein, on n'a pas le droit de parler de notre identité. C'est dangereux, c'est réactionnaire, c'est méchant, c'est hostile, c'est fermé, c'est replié. Mais alors le problème, c'est qu'on vient quand même de quelque part. Quoi. Et qu'est-ce qui nous rassemble? Parce que autant on n'a pas le droit de parler d'identité, hein, puisque c'est détesté, autant on est tous pleins de vivre ensemble à la bouche. Donc alors c'est quoi le vivre ensemble? Qu'est-ce qui nous rassemble? Eh bien, pour moi, je pense que c'est notre langue.
C'est la langue, voilà.
Plus que toute autre chose, voilà ce qui fait de nous des Français.
Alors, la langue que l'on parle aujourd'hui, j'ai presque envie de dire que c'est du tempo. On réduit, on résume, on tronçonne, et puis on scande d'ailleurs, comme dans le slam. D'ailleurs, samedi dernier sur TF1, dans la soirée, j'entendais comme ça devant mon poste de télé, « Allez, on note la presta de la choré en contempo », ce qui signifie bien sûr la prestation de la chorégraphie en danse contemporaine. Mmh. Bon, à ce rythme-là, notre langue, un jour, elle va se réduire à de la phonétique pure, pendant que les algorithmes, eux, fabriqueront le monde, non?
Pour un temps. Disons que la langue, et ça c'est pas moi qui parle, ce sont nos grands académiciens, le rôle de la langue, c'est ce qui définit l'ambition de notre célèbre Académie française, c'est l'usage. En fait, c'est le peuple qui depuis toujours fait sa langue en fonction de ses besoins, donc c'est l'usage. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on est dans une époque où tout va vite, hein, c'est Internet, c'est frénétique, c'est l'immédiateté, voilà ce qui caractérise le mieux les pulsions, les aspirations de notre époque.
On est loin des phrases moustiennes.
Eh ben oui, mais parce qu'aujourd'hui, on a le temps d'avoir 25 rendez-vous dans une journée, autrefois on n'en avait qu'un, deux. Aujourd'hui, il faut aller vite, jusque dans les mots qui se réduisent, qui se contractent, qui se compriment, comme vous l'avez dit, au point de devenir des sons, des tempos. Autrefois, pour dire bonjour, comment ça va, on disait bonjour, comment ça va. Aujourd'hui, on dit wesh.
Voilà, exactement. Mais quand même, quand on parle avec un langage elliptique, on n'a évidemment pas le temps de nuancer la pensée. On passe de la réflexion au réflexe. La langue française, finalement, elle se meurt, justement, à coup de wesh ou de waouh.
C'est pas qu'elle se meurt, parce que ce qu'elle perd dans le fond, parce que c'est vrai qu'elle perd de la nuance, on parle avec moins de mots aujourd'hui, il faut le reconnaître, mais ce qu'on perd dans le fond, on le récupère dans la forme. C'est-à-dire que regardez les jeunes autour de nous, ils expriment beaucoup plus de vigueur, de sonorité, de muscle. Il y a plus d'accent. Ce que je raconte dans mon spectacle, c'est pendant très longtemps, en tout cas depuis la Révolution, on a voulu uniformiser la langue française, on l'a homogénéisée et on a fait disparaître l'accent, on a fait disparaître le patois. Pour être sérieux, au XXe siècle, il fallait parler comme Patrick Poivre d'Arvor, quoi, comme les médias nationaux, la télévision, la radio. J'en veux pour preuve un exemple très connu l'année dernière. Il y a un homme politique qui s'est moqué de la question d'un journaliste à l'accent du Sud prononcé. Hein, c'est un accent provençal, comme si sa question ne pouvait pas être sérieuse. Sous sa forme sonnante et pittoresque. On est là-dedans aujourd'hui. Aujourd'hui, pour être sérieux, il fallait parler comme Patrick Poivre d'Arvor. Mais le 21e siècle arrive et on est en train de retrouver de l'accent, du muscle, de la pêche, de la vigueur. Donc on récupère de la forme. Ça fait du bien aussi.
Voilà, à défaut de retrouver des mots. En tout cas, cette langue, elle a une histoire fascinante, hallucinante, qui convoque la religion, la politique, les guerres, les invasions. Et d'abord, l'ancêtre du français, c'est pas le gaulois, c'est pas Astérix. L'ancêtre du français, c'est le latin, c'est Jules César.
Ah oui, je suis désolé pour tous ceux qui aiment Astérix. Hein, c'est votre cas aussi, j'imagine. Hein, Isabelle, on aime tous Astérix, mais il faut retourner la BD, quoi. Faut prendre le bouquin dans l'autre sens. Notre ancêtre, c'est pas le petit héros sympa avec des plumes. Notre ancêtre, c'est le gros balèze en cuirasse, quoi. C'est brutal, ça fait mal à entendre. D'ailleurs, je pèse mes mots et j'ai une pensée émue pour nos amis du parc Astérix. Hein, ils vont pas apprécier. Notre ancêtre, c'est Jules César, les gars.
Oui, c'est Jules César. Et on voit toujours Jules César comme l'envahisseur. Mais on oublie, et ça je l'ai appris dans votre ouvrage, on oublie que Jules César et ses légions ont franchi les Alpes pour aider des Gaulois à chasser d'autres Gaulois. En fait, au tout début de l'histoire, ce sont des Gaulois qui sont venus demander de l'aide à César, c'est ça ?
Exactement, ah oui, oui. Ah oui, les Gaulois, ils avaient peut-être des traditions, des dieux communs, une langue commune, etc. Qui d'ailleurs donc a disparu au profit du latin très tôt, au 4e, 5e siècle. En tout cas, à partir du 6e siècle, le Gaulois a quasiment totalement disparu de la Gaule. Au départ, ces Gaulois, ils sont divisés, quoi. Ils sont jamais d'accord entre eux, les mecs. Ils passent leur temps à se taper sur la gueule.
C'est très français,
il y a
déjà.
Plus de... Ah bah oui, oui. Ah bah, il y avait des dizaines de clans, une centaine de clans gaulois. Vous aviez les Pictons, les Santons, les Lingons, les Atuatucs, les Nerviens, les Ségossiables, les Vélaves, les Ségovélones, les Olerques, les Ambels, les Tarbels, les Turons, les Rèmes, les Parisis, les Allobroches, les Arverns. Ne vous inquiétez pas, ce spectacle est sponsorisé par Doliprane. Non, non, mais c'était le bordel.
Bon, alors, j'ai appris une chose très surprenante, toujours dans cet ouvrage, Laurent Deutsch. En Gaule, les druides interdisaient l'écriture. Seuls les druides étaient chargés de l'éducation. Or, les élèves avaient interdiction absolue d'écrire. D'abord, je voudrais savoir pourquoi. Et puis ensuite, bon, le peuple gaulois, il n'a donc rien pu transmettre de sa culture, qui est celte. En fait, on ignore absolument rien de l'Empire romain, rien de la civilisation grecque, mais on ignore presque tout de celle de la Gaule.
On commence à découvrir heureusement beaucoup de choses de cette civilisation celtique qui a une très très grande histoire, parce que les Celtes ils arrivent donc dans l'ancêtre de la Gaule 1000 ans avant Jésus-Christ, quoi. Donc ils sont là depuis très très longtemps, on commence à en apprendre beaucoup, mais c'est vrai que pendant très longtemps, ce qu'on savait d'eux, c'était passé par le truchement des Grecs, des voyageurs grecs. Donc la langue gauloise passait par la traduction grecque pour qu'on nous explique un petit peu comment ils écrivaient, les constructions grammaticales.
Mais pourquoi les druides avaient-ils interdit l'écriture ?
Je sais pas, il y a sans doute peut-être une espèce d'élitisme aussi, c'est que la langue soit réservée à des initiés, ça permet de contrôler le pouvoir, Madame Morizet. D'ailleurs, ça a été le but de la Révolution française, oui. Que de détruire les patois, les accents, les dialectes, pour permettre au peuple de ne plus être dans l'ignorance, l'obscurantisme, mais de parler une langue unique et nationale pour comprendre et contrôler le pouvoir.
Europe 1.
Bon, on apprend donc des choses passionnantes dans cet ouvrage. Jules César, qui en fait au départ était le sauveur, va devenir l'envahisseur. Le latin bientôt va dévorer la langue gauloise, qui mettra quelques siècles à agoniser. Mais sur 2000 ans, il va y avoir tant de rebondissements jusqu'au français actuel, parlé par presque 300 millions de personnes dans le monde. On va évoquer tout ça dans un instant. On retrouve tout de suite Laurent Deutsch.
Europe 1.
Vous écoutez, il n'y a pas qu'une vie dans la vie. Isabelle Morizet reçoit Laurent Deutsch cet après-midi.
Laurent Deutsch publie chez Michel Lafon la version richement illustrée avec une iconographie issue des musées de son best-seller romanesque « La folle aventure de la langue française ». Et cet après-midi, on se balade ensemble. Alors, cher Laurent, on évoquait à l'instant la langue de nos ancêtres les Gaulois, qui en réalité est celle des Romains. Avant de reprendre toutes les péripéties qui ont transformé cette langue au fil des siècles, j'aimerais juste qu'on remonte un instant à la source. La langue, en fait, qui est à l'origine de la plupart des langues parlées aujourd'hui en 2019 en Europe, c'est une langue née en Ukraine, n'est-ce pas ? 3000 ans avant Jésus-Christ, langue qu'on appelle l'indo-européen. Et c'est à cette langue qu'on doit dans presque tous les pays d'Europe la même consonance pour le mot « maman ».
Exactement, et même dans le monde, hein. Parce que...
Même dans le monde ?
Ah oui, bien sûr, maman qui donc se dit mère, enfin mère en français, ça se dit Mother en anglais, Mutter en allemand, Mudder en hollandais, Madre en espagnol, mais ça se dit aussi Modar en perse, Mater en grec, Mati en biélorusse, Mat en russe, Maïr en arménien, Mater en sanskrit. Et c'est vrai que cette langue indo-européenne, un peu théorique, un peu souche, on ne sait pas vraiment qui et quand on l'a parlé, mais elle est apparue, on se met d'accord dessus aujourd'hui, il y a à peu près 3000 ans avant Jésus-Christ, donc il y a 5000 ans, et elle a enfanté la plupart de toutes les langues parlées en Europe et même dans le monde, quoi, des dizaines de langues.
Incroyable. Alors revenons aux origines.
On dit tous pareil, ouais. Maman, quoi. C'est quand même joli, quoi. C'est quand même. On est un peuple.
Symboliquement,
le monde
c'est
est
magnifique.
Petit, finalement. Si on dit tous pareil, maman, il y a de quoi s'entendre.
Et puis alors, ça commence par un M. Alors oui, bien sûr, M, dans notre langue à nous, on en a tout de suite par phonétique la signification. Mais bon, allez, revenons aux origines de la langue française, qui n'est donc pas gauloise mais romaine. En Gaule, en Espagne, en Grèce, en Syrie, en Égypte, quand on voulait, au IIIe siècle, établir un contrat, que ce soit une vente, un achat, un mariage, un héritage, il fallait absolument le rédiger en latin.
Ouais.
C'était tout à fait obligatoire. Mais le latin écrit et le latin parlé, j'imagine, n'était pas le même.
Non, 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 bien sûr. Le latin des riches heures de l'Empire que certains d'entre vous ont pu peut-être essayer d'apprendre à l'école dans les versions latines, c'est certainement pas le latin des militaires, des commerçants et même des religieux. Quand la religion va s'imposer dans l'Empire romain au 4e siècle, puis 5e siècle vraiment en Gaule, eh bien, le latin parlé, c'est un latin très simplifié, très arrangé, basique, simple, comme dirait Orelsan.
Notre français, lui, il est donc né d'un du latin parlé, c'est-à-dire voilà. du latin absolument populaire, c'est ça ?
D'un latin dégénéré.
Ah, vous dites ça ?
Oui, c'est un latin qui a dégénéré. C'est un latin vulgarisé, mis en roman, simplifié. C'est la phrase de Saint-Augustin qui disait « Mieux vaut être réprimandé par les grammairiens que de ne pas être compris par le peuple. Faisons simple, basique. » C'est comme ça que le français est né.
Alors, autre chose passionnante à découvrir dans cette folle aventure de la langue française, c'est comment, au IVe siècle, le latin va devenir en fait la langue officielle de la foi. À cette époque-là, l'Empire romain se craquelle et le christianisme va lui proposer un ciment unificateur. Voilà, un Dieu, le Christ, et une seule langue, le latin. Mais pour ça quand même, il faut traduire les Saintes Écritures. L'Ancien Testament, il est écrit en hébreu et le Nouveau Testament, il est écrit en grec. Donc, traduire tout ça en latin, d'abord c'est l'idée très judicieuse d'un pape éclairé, le pape Damas, mais ça relève vraiment de la politique.
C'est de la politique et là encore, c'est lier le peuple, l'unir autour de, j'ai envie de dire, d'un contrat social. On ne va pas parler comme Rousseau, mais c'est un peu un contrat social simplifié, là encore. C'est Saint Jérôme qui va traduire la Bible en latin et cette Bible, valable jusqu'à Vatican II quasiment, en 1960, c'est ce qu'on a appelé la Vulgate. Donc là encore, un langage simplifié, vulgarisé, rustique, accessible à tous. La Vulgate, c'est la Vulgate. Là,
on traduisait ainsi, la Vulgate.
C'est le Sermo Humilis. Ce qu'on appelait, le latin des religieux, c'est ce qu'on appelait le Sermo Humilis, qui veut dire littéralement un sermon humble, simple. Voilà. On simplifie.
Parce qu'avant, cette traduction donc, on va dire que ceux qui n'étaient pas lettrés n'avaient absolument aucun accès aux Saintes Écritures.
Ah bah non, bien sûr que non. De toute façon, les gens lisaient pas, hein. Ils ne lisaient pas, donc on leur disait des sermons et puis ils les répétaient, ils les comprenaient. C'est d'ailleurs pour ça qu'il fallait retranscrire le plus simplement possible, c'est parce que les gens ne lisaient pas.
Mais alors
pas
cette Vulgate, elle a été en fait livrée au peuple en étant chantée en psaume,
voilà.
par exemple, pendant les
ça.
Offices.
Exactement.
Puisque les gens ne lisaient pas, donc au moins ils écoutaient les chants religieux.
Les chants et puis les sermons qui leur étaient faits de manière le plus facile possible pour que ça permette de rentrer dans les cerveaux et que ce soit accepté et que ça fasse des fidèles et des croyants.
Alors aujourd'hui encore, Laurent Deutsch, bien sûr, le latin demeure la langue de l'Église, mais il est resté en fait celle des lettrés et des scientifiques jusqu'au XVIIe siècle. Et ça, on peut dire que c'est un petit peu la faute de Charlemagne.
Oui, parce que Charlemagne, il s'est très 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 vite inquiété de cette langue un peu libre dont on a parlé justement, de ce latin simplifié, arrangé en fonction des usages et des besoins, qui fait que les gens ont commencé à faire des raccourcis, des simplifications, différents dialectes en fonction des corps de métier, des régions où on habitait, etc. Ça fait qu'il y a plusieurs dialectes qui se sont développés et on a fini par ne plus se comprendre. C'est-à-dire que petit à petit, pour rester en France, hein, dans le royaume des francs, il y a eu un dialecte latin qu'on a appelé la langue d'Oyle. Au sud de la Loire, c'était la langue d'Oc. Donc on commençait à plus se comprendre. Et Charlemagne, il s'est dit, oh là là, il y a un chaos linguistique, dangereux pour l'unité. Donc on va retrouver un petit peu les fondamentaux. Hein, on va retrouver le latin comme ciment principal pour son empire. Hein, il est quand même empereur du Saint-Empire romain germanique,
ouais,
le mec.
Ouais,
donc
ouais.
Il a fallu, il a voulu remettre du latin, quoi. Et du coup, la langue romane, enfin notre latin dégénéré, ancêtre du français, pour lui, c'était une langue étrangère. C'est ce qu'il appelait la langue rusticam romanam linguam, à savoir la langue romaine, vulgaire, rustique, l'ancêtre du français.
Europe.
Bon, au cours de ces deux millénaires, l'aventure qui a donné naissance à notre langue actuelle n'a cessé d'avoir des rebondissements. Savez-vous par exemple que, après que Clovis ait réuni tous nos dialectes en une seule langue, la langue des Francs, qui aboutira finalement au français, eh bien l'Angleterre, dès le XIe siècle, s'est mise à parler français. Et oui, et l'Angleterre va parler français d'ailleurs pendant près de 500 ans. Quant aux croisés, eux, ils exporteront le français jusqu'en Orient. Voilà, on a plein de choses à évoquer cet après-midi avec Laurent Deutsch. On fait une pause, on le retrouve tout de suite.
Europe 1.
Il est 15h20, il n'y a pas qu'une vie dans la vie, la suite sur Europe 1 avec Isabelle Morizet et son invité.
Je reçois cet après-midi Laurent Deutsch. Alors Laurent Deutsch, adolescent, vous vouliez, dans le désordre, hein, être footballeur, romancier, journaliste, historien, professeur d'histoire et commissaire de police ou enquêteur, en tout cas dans la police scientifique. D'ailleurs, curieusement, dans la liste, on ne trouve pas comédien. Finalement, il n'y a que deux cibles que vous avez ratées, c'est-à-dire footballeur et commissaire de police.
Oui.
Mais ouais. Tout le restant, voilà.
En tout cas, j'arrive à vivre de ma passion et de choses qui m'accompagnent depuis tout enfant. Ouais, donc je suis très heureux de continuer à mener des enquêtes, des énigmes autour de ce qui m'entoure. C'est ce qui me passionne. C'est le fait de nourrir et de filer du combustible tous les jours à ma curiosité.
Mais alors, je parlais de la vocation première pour le foot.
Ouais.
Même en ayant la rage de l'esprit compétiteur que vous avez.
Je suis encore très bon.
Pourquoi on vous a pas pris ? Vous étiez trop faible.
Non, c'est bien d'ailleurs qu'on ait ce temps de parole, que vous me donniez ce micro ouvert pour que j'exprime toute ma circonspection. Je comprends pas pourquoi j'ai pas été choisi, quoi. Je regarde le foot à la télé, oui, Mbappé, très fort.
Oui, il aurait tremblé
Neymar,
face à vous.
Extraordinaire, mais moi aussi, quoi. Venez me voir le samedi, là, je joue en banlieue, je suis très très fort, hein. Je suis hyper bon, en tout cas, c'est ce que dit mon père.
Alors, attendez, vous étiez en sport-études lorsque vous étiez adolescent.
Oui, à Nantes.
Donc, ça veut dire qu'on croyait en vous et vos parents croyaient également en votre destin de footballeur pour vous avoir inscrit en sport-études.
Enfin, ils respectaient mes choix.
Alors, que s'est-il passé ?
Ils respectaient mes choix. Ils y croyaient plus ou moins. En tout cas, ils me laissaient libre de choisir et de tenter ma chance. Non, ce qui s'est passé, c'est simplement que finalement, j'étais pas assez fort, en fait. Et à 15 ans, on m'a indiqué la sortie. Et donc, j'ai retrouvé une filière classique. Mais c'est le destin, malheureusement, de 90% des apprentis et des aspirant footballeur.
Mais alors, est-il vrai, Laurent Deutsch, qu'on vous a conseillé de prendre des hormones de croissance pour intégrer un centre de formation ?
Oui, parce qu'en fait, à 15 ans, j'avais toujours pas ma puberté. Et à 15 ans, quand on intègre un CFA, on fait beaucoup de travail musculaire, sans ballon. Et quand on est enfant, on peut pas développer les muscles. Il faut attendre que le corps se développe et que le corps devienne adulte. Donc, il faut attendre la puberté. Et tant qu'on n'a pas la puberté, on peut pas travailler sur son corps. Donc, on m'a dit, il faut déclencher ta puberté pour qu'on puisse travailler, pour que tu puisses te muscler, que tu deviennes un athlète. Donc, parce que tant que c'est pas fait, on peut rien faire de toi. Donc,
mais vous avez refusé de prendre des hormones de croissance.
Ouais, j'ai refusé, ouais. Enfin, c'est mes parents qui ont refusé.
J'imagine.
Donc on m'a dit, puisque tu restes dans ton corps d'enfant à 15 ans, que je voyais tous mes partenaires qui prenaient 25 cm et 20 kg, donc on m'a dit, c'est dehors. De toute façon, je venais des Pays de la Loire. Et quand on est à Nantes et que Nantes se réclame bretonne, ce qui n'est pas faux d'ailleurs, hein, historiquement, Nantes c'est la Bretagne, et bien Nantes a toujours un côté vraiment un peu indifférent vers ceux qui sont à l'intérieur des terres, vous voyez. Tout ce qui vient de l'Orne, de la Mayenne, de la Sarre, du Maine-et-Loire. Non, les Bretons ils regardent vers le Morbihan, les Côtes d'Armor, le Finistère, mais certainement pas vers les terres, quoi. On est les bouseux. Faut le reconnaître, les Nantais, reconnaissez-le. Tout ce qui vient de l'intérieur, on est des bouseux. Donc moi, le petit Sabolien, le petit 72, je n'existais pas. D'ailleurs, c'est un département totalement artificiel, quoi. La Sarthe, ça vient d'où la Sarthe?
C'est magnifique la Sarthe.
C'est le Maine.
Et puis venir de la Sarthe.
On est les enfants de Foulquenera. Je veux qu'on renomme la Sarthe le Maine. C'est beau le Maine.
On fera cette proposition. En tout cas, venir de la Sarthe ne vous a pas empêché de faire un double cursus de langues orientales et philo à la Sorbonne. À cette époque-là, le théâtre n'avait pas encore balayé toutes les vocations premières que j'ai évoquées ?
Non, j'étais ouvert à tout, j'avais un appétit pour tout, le champ des possibles, c'est le cas quand on est jeune, heureusement, tout était ouvert, ouais. Donc je me suis dit, on verra vers quoi je penche, mais je me laissais tous les choix et toutes les hypothèses.
Faire langue O et philo à la Sorbonne, c'est peut-être pas le cursus idéal pour entrer dans la police scientifique. Comment se fait-il que vous ayez raté le concours que vous avez passé deux fois, c'est ça ?
Écoutez Isabelle, j'ai qu'une explication, je pense que mon correcteur était nantais. Encore une histoire de truc de breton.
Alors,
qui m'en voulait. Il y avait un complot général contre les médias.
On va creuser un petit peu.
On est des victimes, le 72, quoi.
Laurent Deutsch,
oui.
Vous avez obtenu une licence de philo à la Sorbonne et vous avez été recalé à l'épreuve de philo pour entrer dans la police nationale.
Oui, ça c'est vrai, oui. Incroyable.
D'abord, j'ignorais qu'il y avait une épreuve de philo.
Non, enfin, c'était une dissertation de français, mais qui se construisait sur un plan en trois parties, donc suivant les modèles qu'on a appris à l'école, enfin en philosophie, quoi, vous voyez, la thèse, l'antithèse, la synthèse, pour réconcilier l'étudiant, vous voyez, pour pas qu'il descende dans la rue. C'est quelque chose qui date de la Troisième République où on disait aux élèves, réconciliez-vous, quoi, pour ne pas aller manifester. Donc on faisait une thèse, une antithèse, donc on prenait le pour et le contraire, et ça se terminait par une sorte de compromis, vous voyez. On rendait les étudiants déjà dociles à l'époque.
Et pourquoi avez-vous obtenu un 6 sur 20 ?
J'en sais rien. Je vous dis, c'était un mec de Nantes.
Mais quel était le sujet qui vous a fait récolter cette note pitoyable?
Je crois que c'était un sujet du style, en plus c'était vraiment un sujet simple et dont j'avais fait le tour dans tous les coins, je l'avais coiffé dans tous les sens. C'était « Est-on libre par le travail ?» ou un truc comme ça. Le travail rend-il libre? Mais le sujet vraiment facile, quoi.
Mais oui, bateau, ça aurait dû vous inspirer.
J'étais très inspiré. J'ai gratté, j'ai eu 6.
Bon, vous avez renoncé la mort dans l'âme, finalement, à une vie d'enquêteur officiel, puisque vous l'êtes devenu avec plein de digressions au nom de l'histoire, petite et grande. Mais vraiment, vous aviez envie de devenir commissaire de police?
Ah oui, je voulais être policier. Mais regardez, j'ai pas non plus la sensation d'être très surprenant quand on voit les programmes télé d'aujourd'hui, avec toutes les séries, les films enquête criminelle, etc. Moi, j'avoue que, comme tous les Français, c'est des choses qui me passionnent, ça m'intéresse. Résoudre des énigmes, relever des défis, mener l'enquête, ça me plaisait. En plus, moi, à l'époque, je voulais habiter en Hongrie, j'avais 20 ans. Donc
vous êtes d'origine hongroise.
Mon papa est hongrois, ouais, voilà. Donc je voulais retourner là-bas pour enquêter, parce qu'il y a des gros trafics de vols de voitures là-bas. Donc je me suis dit, tiens, je vais enquêter là-dessus, je vais remonter les filières. Ça me passionnait, ouais, donc, mais j'ai échoué, lamentablement.
Mais vous avez songé à écrire des séries, alors, policières, par exemple, pour la télé?
Non. Ah non, pas du tout. Alors, non, ça,
vous
non,
qui
pas
êtes
du
un conteur.
Oui, mais alors, Alors, moi, j'aime les belles histoires. C'est d'ailleurs aussi ce qui parfois m'est reproché, c'est que j'ai l'ambition de ma naïveté. C'est-à-dire que pour moi, l'histoire, c'est avant tout une belle histoire. Elle doit nous réunir, elle doit nous faire du bien, elle doit nous rassembler. Elle doit pas être clivante, elle doit pas servir une cause, elle doit pas servir un clan politique, une chapelle, une idéologie. Non. C'est quelque chose de beaucoup plus tendre que ça, quoi, l'histoire. Quoi. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai un peu de mal avec l'histoire contemporaine.
Enfin, tendre, elle est parfois d'une cruauté, elle est parfois
oui, mais...
si sombre, elle
oui,
est parfois,
Isabelle...
prenons la révolution, la terreur,
oui,
mais...
Quand les eaux sont bien blanchies, quand ça a 300 ans, on est dans un pays apaisé aujourd'hui. Il y a des frictions, il y a des tensions, mais quand même, globalement, regardons à côté de chez nous, tout va bien, quoi. Enfin, tout va bien. Tout va pas si mal.
On retrouve tout de suite Laurent Deutsch.
L'invité d'Isabelle Morizet, Laurent Deutsch, est actuellement sur la scène du Théâtre de Paris pour une adaptation de son livre romanesque « La folle aventure de la langue française ». La langue, il en jouait et s'en délectait, c'est Serge Gainsbourg. Vous écoutez « Il n'y a pas qu'une vie dans la vie », 15h29.
Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant.
La Marseillaise, version reggae, version Gainsbourg.
Ce sont les 1000 vies de Laurent Deutsch qu'on évoque aujourd'hui à l'occasion de la sortie de la version enrichie et magnifiquement illustrée de son best-seller romanesque, La folle aventure de la langue française, qui paraît chez Michel Lafon. Alors, Laurent Deutsch, même si vous avez démarré au cinéma avec des rôles de môme de banlieue, comme dans la comédie devenue culte, Le ciel, les oiseaux et ta mère, aux côtés de Jamel Debbouze, ou 3-0, film qui vous a valu d'être nommé au César du meilleur espoir masculin, eh ben, on a le sentiment que, en fait, ce sont les personnages historiques joués en costume qui vous ont imposé, ou en tout cas qui vous réussissent. De Mozart à Jean-Paul Sartre, en passant par Jean de La Fontaine, que vous avez magistralement incarné au cinéma, vous avez vraiment donné votre fougue à beaucoup de beaux esprits du passé. C'est un défi plus noble d'incarner ce genre de personnage ?
Je pense pas, c'est simplement un voyage plus long, un voyage plus impressionnant, plus épais, plus savoureux. Vous vous replongez 300, 400 ans en arrière, vous avez des perruques, vous avez des costumes, vous avez des épées. Donc l'âme d'éternel enfant que j'essaie de conserver pour garder ma jeunesse et ma curiosité est ravie de tout d'un coup d'enfiler des costumes, quoi, de voyager, de remonter le temps.
Puis il y a un travail différent pour le comédien face à l'incarnation d'un personnage qui a existé.
Bien sûr, il y a cette incarnation, et puis même rien que dans le fait d'avoir des talons, des bottes, des chaussures différentes, ça vous fait la moitié du rôle, quoi. C'est pas bête, hein, je vous assure, quand vous enfilez une paire de chaussures différentes, un costume différent, vous avez un maintien différent et vous êtes quelqu'un d'autre. Donc déjà, pas la moitié du travail, mais vous êtes déjà dans un rôle, quoi, dans une composition. On quitte les baskets.
Quel rôle, justement, quel personnage vous a offert la plus étonnante aventure ?
Mon personnage préféré, oui, dont je garde un sublime souvenir aussi pour le tournage, pour le résultat, pour le succès que ça a eu, c'est un film que j'avais fait il y a une dizaine d'années sur Nicolas Fouquet. Personnage magnifique, oui, qui s'est brûlé les ailes en étant trop sublime, trop magnifique face à Louis XIV. Et il n'a pas vu que Louis XIV lui portait ombrage. Et finalement, ça lui a valu une terrible disgrâce. Il a fini dans un exil, dans une prison affreuse, à la frontière italienne, à Pignerol, où il vivait dans un vieux donjon, sans chauffage, sans rien, sans nourriture. Enfin bref, on le laisse pourrir là-bas. Mais c'était un énorme esprit. Hein. C'était quelqu'un de magnanime, de sublime, un mécène des arts. C'était un livre, un scénario original créé par Didier Decoin.
Ouais.
Didier Decoin avec Laurent Henman. Et voilà, c'était sur deux époques où on racontait à la forme d'une fable. C'était le roi, l'écureuil et la couleuvre. L'écureuil, c'était le symbole de Fouquet. Ouais. Et la couleuvre, c'était Colbert, l'ennemi juré de Fouquet au XVIIe siècle.
Alors, Laurent Deutsch, la vie est un scénariste surprenant, vraiment. Vous passez un jour dans une émission de télé dont l'animateur vous somme de répondre à un quiz sur le passé. L'éditeur Michel Lafon est dans son salon, il zappe sur des chaînes, et soudain, comme ça, il tombe sur vous, et il est tellement surpris par le savoir et la passion qui vous anime, qu'il va changer l'aiguillage de votre carrière. Alors que vous n'aviez pas pensé à, justement, ouvrir la porte qu'il vous propose de franchir, n'est-ce pas ?
Ah oui, non.
C'est lui qui vous appelle.
C'est lui qui m'appelle, et il me dit, mais il faut que tu écrives absolument à partir de tout ce que tu connais. Et je lui dis, mais moi, ça existe déjà. J'ai rien inventé, j'ai juste lu des livres, donc en quoi je vais me démarquer ? En quoi je vais être singulier, original ? Je vois pas trop, quoi. Donc il me dit, cherche, réfléchis à un angle. Et puis 5 ans après, je lui ai proposé Métronome, voilà, l'histoire de France à travers le prisme du métro parisien. Parce que c'est comme ça que moi-même, j'ai appris à aimer mon histoire, aimer l'histoire de France.
Mais vous dites combien ? 5 ans plus tard ?
Ah oui, à peu près, ouais. Oui.
Alors,
le livre
il vous
sort.
A fallu tout ce temps pour trouver la bonne idée ou tout ce temps pour rédiger l'ouvrage ?
Un peu tout. D'abord, trouver la bonne idée. Trouver en quoi mon livre sur une bibliothèque allait être indispensable ou incontournable. Plutôt que de faire quelque chose, d'un travail de bachotage ou de rabâcher ce qui a déjà été écrit et dit, il fallait que je trouve un angle, une problématique.
Alors justement, ce savoir vibrionnant, romanesque, vous l'avez glané comment ? Où ? Vous êtes un rat de bibliothèque ?
Pas du tout. Ah non, moi c'est un livre, et d'ailleurs on va s'en amuser, mais c'est un livre que j'ai écrit avec mes pieds. C'est vrai ?
En sillonnant Paris.
Ouais, c'est voilà. Un livre que j'ai écrit en marchant, en levant la tête, en étant stupéfait, surpris, interrogé sur une réalité, sur une aspérité de mon quotidien, de mes déplacements. Parce que derrière toutes ces aspérités, derrière ce quotidien, il y a des histoires. Et souvent, elles racontent notre histoire, quoi, l'histoire de France. Donc c'est merveilleux, on est renseigné sur nous-mêmes. Donc moi, j'ai plongé à pieds joints.
Depuis 2009, Laurent Deutsch, date de sortie donc de Métronome, vous en avez vendu combien d'exemplaires ?
2 millions.
2 millions ?
Oui.
Très bien. Alors, il y a donc eu un Métronome 2, il y a eu un Métronome illustré, et puis il y a eu Hexagone, et enfin l'année dernière, la sortie de Romanesque, la folle aventure de la langue française, qui également est devenue un best-seller. Romanesque, d'ailleurs, il y a un double sens dans le titre, n'est-ce pas ?
Oui, comme un peu Métronome. Je m'amuse un petit peu avec des titres à tiroir. C'est vrai que Romanesque, c'est une évocation du passé romain, de la langue française, puisqu'elle est passée du latin au français par le roman, donc par la langue romaine vulgaire, donc la langue romane, voilà, ouais. C'est l'ancêtre du français, c'est le vieux français. Et Et je pense qu'effectivement, la langue française, elle est romanesque parce qu'elle est vivante. Elle saute par-dessus les toits, elle saute par-dessus les lois. Elle est insatiable, insaisissable. Elle n'a pas peur des audaces, des outrages. Et c'est ce qui la différencie d'une langue figée, d'une langue assise, installée, comme le latin, d'une langue romantique. C'est la différence entre le romanesque et le romantique, quoi. Le romantique, il s'assoit devant un ravin et il va méditer. Le romanesque, il va enjamber le ravin, quoi. Il va aller plus loin. C'est ça, la langue française, quoi. Donc, n'ayons pas peur de ces avancées, de tout ce qui peut nous paraître, par moments, complètement inquiétant, qu'on s'éloigne. Non, on s'éloigne pas de la langue française. Elle se défait pas. Elle continue à se faire comme elle l'a toujours fait.
Et c'est un jeune homme d'origine hongroise qui nous affirme ça. Laurent Deutsch, les Français sont des polémiqueurs nés. Hein. Mais avec vous, certains journalistes s'en donnent vraiment à cœur joie. Quitte à oublier d'ailleurs que vous êtes un vulgarisateur passionné. Pourquoi êtes-vous sans cesse dans leur ligne de mire? C'est parce qu'ils vous trouvent militant simplement parce que vous vous présentez comme royaliste et catholique?
Non, je pense pas. Il y a plein de choses. D'abord, ça fait parler. Vous savez que vous parlez de quelqu'un qui est un peu populaire, donc tout d'un coup, ça fait parler de vous. Donc il y a beaucoup de gens qui parlent de moi pour faire parler d'eux, en fait. Donc je suis qu'un instrument, un objet pour nourrir leur propre quête de lumière. Donc ça c'est pas quelque chose que je relève, parce que ça m'intéresse pas de débattre avec eux de ça. Ensuite, il y a le fait que... c'est ce que je disais à propos de l'identité, par exemple. Vous parlez de l'identité, de ce qui fait de nous des Français. Eh bien, pour beaucoup, aimer la France, ça veut dire qu'on n'aime pas l'autre, qu'on n'aime pas l'étranger. C'est aussi stupide et binaire que ça. Et moi, j'ai envie de dire à ces gens-là, qui aujourd'hui, quand on parle de notre pays, qu'on aime notre pays, qu'on a un drapeau français dans son jardin ou quelque chose comme ça, ça ne veut pas dire qu'on est pour une préférence nationale, qu'on est pour le cloisonnement, pour la frontière, pour le repli identitaire. Non, pas du tout. Ça veut simplement dire qu'on a quelque chose à vendre, à proposer, un joli modèle qui est d'ailleurs très métis en lui-même, qui est très ouvert, qui est très généreux, qui est porté vers l'autre. Et aimer la France, c'est pas refuser l'autre. Aimer la France, c'est expliquer à l'autre pourquoi il a raison de venir chez nous.
On retrouve tout de suite Laurent Deutsch.
Europe 1. Vous écoutez, il n'y a pas qu'une vie dans la vie jusqu'à 16h sur Europe 1. Isabelle Morizet reçoit aujourd'hui Laurent Deutsch à l'occasion d'une actu, un seul en scène qui réunit deux de ses passions, l'histoire et la langue française.
Laurent Deutsch, tous les dimanches, lundi et mardi, le dimanche à 17h30, le lundi et le mardi à 20h. Tout à l'heure, je vais simplement signaler le lundi, mais comme c'est complet, il a fallu rajouter donc un soir de plus en
on
présentation.
Rajoute une date.
Bravo.
En raison du succès.
Oui, voilà, et bien vous êtes donc...
Merci à vous surtout d'être venu et d'avoir rempli la salle.
Mais c'est pas fini. Vous êtes sur la scène du Théâtre de Paris, salle Réjeanne, pour nous livrer donc un seul en scène absolument diablé, tiré de votre dernier best-seller romanesque, La folle histoire de la langue française, qui paraît chez Michel Lafon. Alors, avant de plonger dans l'esprit de ce spectacle, juste une remarque. Vous êtes en train de changer le rituel des représentations au théâtre, parce que d'ordinaire, les théâtres, ils sont tous fermés le lundi.
Ouais, souvent les théâtres sont fermés le lundi, mais ça s'ouvre, ça se démocratise, c'est de plus en plus polyvalent aujourd'hui un théâtre. La plupart des théâtres sont d'ailleurs ouverts le lundi pour des réceptions privées, pour des conférences, pour des choses comme ça. Et puis moi je voulais pas gêner mes partenaires qui jouaient déjà du mardi au dimanche, donc je leur ai dit bah voilà, le dimanche vous finissez, et puis moi pendant les deux jours vous êtes pas là, je m'installe avec mon petit décor, ma petite boîte noire.
Et ils grignotent, maintenant c'est trois jours.
Et maintenant j'ai pris une journée, ouais, j'ai pris une journée. Je leur file une journée de vacances supplémentaires, donc j'espère qu'ils m'en voudront pas. Et ça permet aussi que le théâtre soit plein et que ça le fasse vivre, hein, parce qu'on ne vit pas de subventions, hein, on est dans du théâtre privé, nous, donc on n'a pas d'aide de l'État, donc on doit se retrousser les manches, on fait tout seul.
Parlons de ce spectacle. Vous faites tout seul et justement, c'est un seul en scène. Comment, concrètement, adapte-t-on un livre riche de 2000 ans d'histoire et de personnages tous plus fascinants les uns que les autres quand on est seul en scène?
Je me suis basé sur plusieurs livres pour écrire romanesque, et dès que j'ai commencé à écrire romanesque, j'avais déjà l'idée de le transformer en spectacle. Donc finalement, je l'ai écrit à quatre mains. Il y avait tout ce qui était destiné pour le livre, donc tout ce qui était plus didactique, plus nourri, plus argumenté, plus installé, et tout ce qui était plus surprenant, plus spectaculaire, plus tonitruant, en un mot, plus romanesque. Donc tout ce qui est pour moi allait être plus agréable à raconter,
tout ce qui fourmillait d'anecdotes,
à incarner. Ouais, fallait que ça s'incarne. Voilà, je suis pas sur scène pour vous livrer une leçon d'histoire. Je suis sur scène pour vous proposer un spectacle. C'est avant tout un spectacle humoristique. Je réclame d'abord le fait de vous faire rire, parce que c'est bien beau de se nourrir, d'apprendre des choses, c'est instructif, mais c'est c'est pas suffisant. Moi, je veux surtout vous donner du bonheur et faire rire les gens, voilà.
Mais alors,
je mesure la réussite aux éclats de rire.
Le spectacle, Laurent Deutsch, vous l'avez construit en suivant la chronologie quand même de la lecture, donc la chronologie de l'histoire de notre langue, ou pas vraiment ?
Ah si, si, ouais, ça suit la chronologie.
Ouais.
Moi, je suis un amoureux de la chronologie. D'ailleurs, les cours d'histoire qui, pendant longtemps, ont lutté, là, depuis les années 70, contre la chronologie, l'incarnation, pour transformer l'histoire en quelque chose de plus thématique, avec des entrées. Ça a perdu les gens, et aujourd'hui...
C'est bien de garder des dates,
ouais.
N'est-ce
et
pas ?
D'ailleurs, on y revient. On y revient, l'éducation nationale remet de la date, remet de l'incarnation, remet des histoires, remet de l'humanité. Ça fait du bien. Ne perdons pas de vue que ce sont des histoires humaines, quoi.
Bon, j'aimerais avoir des nouvelles, en fait, de votre chaîne YouTube, celle que vous avez créée, donc, pour le net, baptisée À toute berzingue, et qui vous permet, en 5 minutes chrono, de raconter l'histoire d'une grande ville du monde que vous traversez.
Oui.
Vous en êtes où ?
J'en suis à ma 20e ville, maintenant. Ça fait un an que la chaîne existe et je suis très heureux parce que là, j'ai passé les 17 000 abonnés. Donc, je suis content d'avoir autant de complices. Ça me donne de l'enthousiasme, envie de continuer à courir pour vous raconter simplement, là encore, de manière très rapide, très ludique. C'est le principe d'Internet, en fait. Internet, les gens décrochent très vite. Ils zappent très vite sur Internet, encore plus vite qu'à la télé. Donc, il faut les accrocher en 20-30 secondes. Donc, moi, mon défi, mon ambition a été de vous raconter une ville de France, ou d'ailleurs, en 5 minutes.
Alors, ou d'ailleurs, et justement, par exemple, je suis allé regarder tout à l'heure sur mon iPhone, je vous ai vu traverser Tokyo pour nous en conter tous les mystères. Vous avez trouvé un sponsor pour financer les déplacements et le tournage des vidéos parce que vous allez aux quatre coins de la planète ?
Enfin, au départ, c'était en France. Et c'est vrai que maintenant, grâce à mon spectacle, j'ai créé une société de production en Asie.
Oui.
Et
Asie ?
Ouais. Ouais, parce que d'abord, il y a une grande communauté francophone. Il y a beaucoup de francophiles. Les Japonais sont des amoureux de notre langue. Les Coréens sont des amoureux de la langue. D'ailleurs, il y a la fête nationale de la langue coréenne. Et donc, pour eux, quand ils s'intéressent à la France, bien sûr que la Tour Eiffel, ça leur plaît. L'Arc de Triomphe, les marques Chanel, Vuitton, ça leur plaît. Mais la langue, ça leur plaît parce qu'ils sont convaincus, et je suis d'accord avec eux, que ce qui fait l'identité d'un peuple, c'est sa langue. Donc, pour comprendre les Français, ils ont besoin de comprendre comment ils parlent. Donc, je fais vraiment ça le comble quand je vais là-bas parce que je leur raconte notre langue, je leur dévoile le mode d'emploi de la langue française et quelque part de l'âme française.
Alors justement, ce spectacle que vous jouez au Théâtre de Paris, seul en scène, vous l'avez joué en Asie déjà,
oui,
plusieurs
fois. Je l'ai joué la première saison.
Mais alors, vous jouez devant des expatriés ?
Il y a de tout. Alors évidemment, je m'intéresse et je m'adosse et je m'appuie sur toute la francophonie, la francophilie, donc l'Alliance française, les ambassades, les choses comme ça, des partenaires privés aussi, des groupes, des entreprises pour des comités d'entreprise, des choses comme ça. Mais de plus en plus, je commence à avoir ma propre structure où je fais venir des locaux. À Hong Kong notamment, ce sont des Hongkongais qui viennent. On sait leur attachement et leur volonté. Ils sont épris de liberté. On voit malheureusement qu'en plus aujourd'hui, c'est un peu compliqué là-bas, mais on voit que ce sont des gens très gourmands qui ont soif de connaissances et d'ouverture, et j'avoue que ça marche bien à Hong Kong. Faut que ça continue. Donc
Alors c'est étonnant parce que cette chaîne YouTube que vous avez créée, bien évidemment...
À toute berzingue, ça s'appelle.
Ouais. À toute berzingue, j'imagine que vous voulez la voir grandir, mais est-ce que vous préféreriez que vos programmes courts passent à la télé ? Ou non, vous êtes très content de cette aventure tout à fait personnelle ?
Je suis d'abord très content de cette aventure personnelle, et en plus c'était un moyen pour moi d'être présent sur les réseaux sociaux. Très longtemps, j'ai tourné le dos aux réseaux sociaux, ça ne m'intéressait pas. Je ne comprenais pas comment on puisse être hyper heureux de se montrer avec un cocktail, les pieds, ou alors montrer ce qu'on allait manger le soir. En plus, je suis une personnalité publique, donc mon orgueil est satisfait, mon ego est satisfait. J'ai suffisamment la tribune pour parler de moi, de ma vie et de mon œuvre, donc je n'avais pas besoin d'en rajouter sur les réseaux sociaux. Mais j'ai eu tellement de désagréments et de mésaventures sur les réseaux sociaux avec des gens qui usurpaient mon identité, qui se faisaient passer pour moi. J'avais une dizaine de faux comptes, moi, gens. Oui, ça m'a valu des problèmes il y a quelques années, d'ailleurs, avec...
Une dizaine, ça fait beaucoup.
Il y a des comptes fantaisistes ou des gens plutôt sympas, mais il y a aussi des gens qui sont vraiment, par contre, plutôt mal intentionnés et malveillants. Donc, il a fallu occuper un vide, il a fallu occuper la place. Et donc, j'ai créé mon compte pour ne pas qu'on puisse se faire passer pour moi. Voilà, maintenant, j'existe sur les réseaux sociaux, il me fallait un contenu. Ça a été À toute berzingue sur YouTube.
Alors, la prochaine destination magique sur cette chaîne, À toute berzingue sur YouTube, ce sera ?
Eh bien, la prochaine, ça va être Cannes, Antibes. J'ai tourné aussi Saïgon. Au Vietnam, et Nouméa en Nouvelle-Calédonie. J'ai eu la chance d'aller là-bas, le bout du monde, aux Antipodes, et c'est une île merveilleuse. J'y ai appris des choses incroyables que j'ai hâte de vous raconter dans À toute berzingue.
La vidéo n'existe pas encore.
Elle n'est pas encore sortie,
voilà,
je pense qu'elle va
sortie.
Sortir dans un mois ou deux. Quoi.
D'accord. On retrouve tout de suite Laurent Deutsch.
Europe 1. Il n'y a pas qu'une vie dans la vie, se poursuit pour quelques minutes encore. Le comédien et passionné d'histoire Laurent Deutsch raconte sur scène et se raconte sur Europe 1. Il est l'invité d'Isabelle Morizet.
Comédien, historien de cœur, il préférait peut-être que je dise passionné d'histoire.
Enfin, moi, je préfère pas, mais j'en connais qui préfèrent.
Je reçois Laurent Deutsch. Alors, cher Laurent, il y a 280 millions de francophones aujourd'hui dans le monde. Mais on nous promet 500 à 700 millions de francophones en 2050, dont 85% se trouveront en Afrique. Sincèrement, vous croyez à ces projections ?
Oui, en tout cas, elles font du bien à entendre.
Elles sont agréables à entendre.
Dans cette période d'anglicisme où on est persuadé que la langue française va disparaître, on voit bien que grâce à la francophonie, la francophilie, elle aussi qui se mesure moins mais qui est majeure, la langue française a encore de beaux jours devant elle. Donc tant mieux, c'est sublime et qu'on puisse échanger dans le monde entier en français, dans différents français. Parce que quand je dis, et ça me vaut souvent des petites réflexions où on me dit, mais attendez, quand vous dites que ce qui fait un français, c'est le fait qu'il parle français, vous êtes en train de nous dire que les Québécois sont français ou certains Sénégalais sont français, des Camerounais sont français. Non, c'est pas ce que j'ai dit, c'est qu'il y a différents idiomes français. Il y en a pas un qui est meilleur que l'autre, il y en a différents. Le français des Québécois fait d'eux des Québécois et le français des métropolitains fait de nous des Français métropolitains. Mais toutes ces variations font du français et c'est un grand mariage de francophilie qui est, bénéfique et nécessaire et qui nous nourrit les uns les autres.
Mais alors, effectivement, par exemple, les Sénégalais comme les Vietnamiens ont en commun la langue française. Pourtant, au Sénégal, dans de nombreuses écoles, on n'enseigne plus le français.
Oui.
Alors ?
Bah oui, mais c'est ça malheureusement. Attendez, moi je suis pas un spécialiste, un sociologue, ni un homme politique.
De ces chiffres qui sont très prometteurs, où on nous annonce vraiment une explosion de la francophonie.
Ah écoutez, ceux qui ont avancé ces chiffres-là qu'il faut interroger. En tout cas, c'est vrai qu'ils font du bien, ils flattent. Hein, c'est un petit peu comme une crème apaisante pour tous ceux qui ont le poil hérissé en voyant que la langue de communication globale aujourd'hui c'est l'anglais.
Voilà.
Ça a été le français au XVIIIe siècle, maintenant c'est l'anglais. Chacun son tour. Mais comme on l'a dit et que vous le découvrirez dans le spectacle, ne nous inquiétons pas, la moitié du vocabulaire anglais, ça vient de chez Bibi, hein, c'est du français. Donc
oui, exactement.
On a de l'avance. Donc, voilà. Merci les Anglais, finalement, ils travaillent pour nous.
On imagine que c'est nous qui leur avons subtilisé week-end, parking. Mais en fait, tout se joue à l'inverse.
Ah bah bien sûr.
En fait,
tous les mots. Ah non mais attendez, quand même Isabelle, il y a parking, il y a des exemples comme ça qui prouvent que c'est vrai qu'il y a de l'anglicisme. Il y a 1500 mots anglais à peu près aujourd'hui dans la langue française. C'est énorme, c'est un vocabulaire très technique, c'est les économistes, les financiers, c'est à la mode, etc. Bien sûr, c'est une réalité. C'est la langue globale de communication. On n'y peut rien.
Mais
la plupart des mots techniques, importants, officiels, juridiques, les mots en ion par exemple, qu'on retrouve partout dans la langue anglaise, c'est des mots français. Juridiction, election, evolution, revolution, illusion, disillusion, fashion, tout ça, union, c'est français, c'est du français, donc ne nous inquiétons pas, on a de l'avance.
Laurent Deutsch, qui a inventé l'argot ? C'est François Villon ?
Non, c'est pas François Villon, l'argot il existe depuis toujours. L'argot ça a toujours été une manière de se faire comprendre plus facilement ou alors justement de ne pas se faire comprendre. Donc c'est un petit peu les deux. C'est un langage à la fois qui cloisonne ou qui facilite. Mais regardez... comment on dit manger en latin ? Je vous donne un petit exemple, justement avec l'argot. Manger en latin, ça se dit edere. D'ailleurs, on en retrouve la trace aujourd'hui dans le mot anglais, to eat, manger, hein, edere, et le mot allemand, essen. Mais nous, les Français, on dit manger. Qu'est-ce qu'on a foutu ? Eh bien, justement, dès le 2e, 3e, 4e siècle de notre ère, on va préférer un mot argotique, plus populaire, plus imagé, un mot latin qui était manducare, qui veut dire jouer des mandibules. Parce que nos ancêtres gallo-romains, ils devaient manger comme des porcs. Donc de manducare, tu vois, en mâchant bien fort comme ça,
on a fait manger.
C'était déjà de l'argot. Et ça, on le doit pas à Villon, on le doit aux gallo-romains, quoi. Ça a 2000 ans, l'argot.
Alors, au XVIIe siècle, Richelieu crée l'Académie française. Et ce siècle est un terreau littéraire formidable. Corneille, Molière, Racine, Pascal, Bossuet, Boileau, La Bruyère. Au XVIIIe siècle, la langue française triomphe dans toutes les cours européennes. On parle français jusqu'en Russie, à la cour de Catherine II. Mais... une seule et même langue, eh ben ça ne garantit pas l'unité. L'Europe entière parle français, mais tous les pays d'Europe vont s'affronter dans le premier conflit mondial de l'histoire. Et en 1763, eh bien l'Angleterre va s'imposer comme grande puissance mondiale. On peut dire que c'est cette date, selon vous, la date de ce traité en 1763 qui a porté un sacré coup à l'aura de la langue française ?
Oui, c'est possible. Je pense que surtout ce qui va porter un sacré coup à l'aura de la langue française, ça a été paradoxalement Louis XIV qui, quand il a révoqué l'édit de Nantes, va permettre à tous les protestants de
s'expatrier.
Et donc c'était quelque chose, ils ont eu peur, hein, ils ont craint une nouvelle guerre de religion, Saint-Barthélemy, etc. Et c'est eux qui, en allant nourrir les cours d'Europe, ont fait que le français s'est retrouvé un petit peu désiré partout. Donc en fait, tout est à la fois lié, et c'est une section d'événements dont on connaît les causes, mais on ne mesure pas les conséquences. Et de ce truc affreux de voir les protestants fuir le royaume de France, hein, inquiets pour leur vie, pour leur sécurité, eh bien, a fait que le français a triomphé. Donc, c'est vrai que 1763, les Anglais qui s'imposent sur le nouveau continent, etc., il y a la révolution qui arrive derrière, on les soutient, mais petit à petit, on va perdre de l'influence. Qui sait ce que ça va nous apporter plus tard, quoi. Je veux dire, tout reste ouvert, tout reste possible, tout reste probable, et la langue française, vraiment, n'est pas en train de mourir.
Alors, il n'empêche que notre langue est celle de Victor Hugo, de Chateaubriand, de Voltaire, de Proust. En fait, laquelle vous charme le mieux? Laquelle sonne le mieux aux oreilles du comédien et du conteur que vous êtes? Entre la prose d'un Hugo, d'un Chateaubriand, d'un Proust?
Honnêtement, j'ai un grand amour pour Victor Hugo, pour la simplicité de ses formules. C'est le roi des... comment on appelle
frappé
ça ?
Frappé comme des médailles.
Non, et puis, oui, voilà. Et puis le roi des oxymores, quoi, des clairs-obscurs, la plume et le plomb pour parler de Cosette et Jean Valjean. Il est toujours dans cet équilibre des contraires. Lisez le Victor Hugo, il y a ces antagonismes qui reviennent à chaque page. Et c'est magnifique, parce que c'est d'une simplicité, c'est d'une efficacité, c'est gourmand à lire. Les phrases de Victor Hugo, on les fait siennes. Quand on lit une page d'Hugo, il n'y a pas une phrase qu'on n'a pas envie de retenir pour être plus intelligent.
Et
quoi.
Sa poésie.
Et sa poésie, bien sûr. Mais son côté, justement, épique, comment avec du souffle, ses tragédies, sa dramaturgie. Bah, Victor, pour moi, voilà, s'il n'y en a qu'un, c'est Victor Hugo. Après, c'est vrai que j'aime beaucoup Chateaubriand aussi pour sa poésie. Et pour lui, plutôt, son côté romantique. Il y en a un qui est romanesque, Hugo, l'autre est romantique, Chateaubriand.
On a bien
les
noté.
Deux bons exemples.
Alors, Laurent Deutsch, la version enrichie de votre dernier best-seller romanesque paraît chez Michel Lafon, augmenté 250 illustrations rares, des documents d'époque, des gravures, d'anciens manuscrits, des iconographies. Tout cela pour vraiment un voyage à travers les siècles. Et puis, je rappelle qu'on vous retrouve sur la scène du Théâtre de Paris pour l'adaptation de ce livre en un seul en scène absolument débridé, tous les dimanches, tous les lundis et... Comme c'est un triomphe, maintenant tous les mardis. Voilà. Et bientôt, il va falloir que vos petits camarades au Théâtre de Paris vous fassent de la place toute la semaine,
non,
c'est
non.
ça ?
Je m'arrête là parce que d'être tout seul sur scène, c'est pas évident. Donc j'ai besoin de récupérer, de reprendre des forces.
Merci de votre générosité. Je rappelle bien sûr qu'on peut à tout moment réécouter en podcast cette émission. Et merci à Corinne Reich pour la réalisation et Agnès Vaudin pour la programmation.
C'était Il n'y a pas qu'une vie dans la vie. Isabelle Morizet revient bien sûr demain dès 15h en compagnie de celui qui règne sur la maison Balmain, qui a habillé Beyoncé, Rihanna, Jennifer Lopez ou encore Kim Kardashian. C'est Olivier Rousteing, le directeur artistique de Balmain, qui fait l'objet d'un film documentaire alors qu'il nous éloigne des défilés de mode et des podiums pour éclairer l'autre vie d'Olivier Rousteing. La recherche de ses parents biologiques. Dans un instant, place à l'équipée sauvage emmenée par Mathieu Noël. 2 heures de bonne humeur sur Europe 1, c'est juste après les infos de 16h. Europe 1.